Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Nous aussi, nous tous aussi, nous vivions autrefois comme les autres, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Notre cher frère, il n'y a pas de meilleure façon d'honorer les saints que d'imiter leurs vertus, de participer à leur charité, de faire nôtre leur humilité. C'est aujourd'hui la fête de notre Saint-Père Augustin, confesseur, évêque, docteur de l'Église. La fête de notre Saint-Père nous rappelle cette année encore combien nous sommes privilégiés, en tant que communauté, de posséder comme père, comme patron et comme protecteur celui que l'on nomme la bouche de Jésus-Christ et la bouche de l'Église, celui dont l'épouse de Jésus-Christ a en maintes occasions, tant par le témoignage des papes que des conciles, reconnu pour être l'interprète le plus autorisé des doctrines de la grâce et le défenseur de la liberté divine contre les prétentions de l'homme déchu. Mais, mes très chers frères, à quoi sert-il d'être doté d'un si prestigieux patronage, si ce n'est pour ne pas suivre ses pas, pour ne pas s'attacher à sa doctrine et pour ne pas aimer Dieu de la manière dont lui-même l'a aimé? Si nous fêtons Saint-Augustin aujourd'hui, c'est essentiellement pour l'imiter, pour apprendre de lui la doctrine de la grâce, pour apprendre de lui comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain, de telle sorte que nous puissions être sauvés. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons que pour apprécier le prix de la grâce, il faut connaître le déplorable état, la déplorable situation d'où elle nous a tirés. Et donc ce que la grâce a fait à notre profit, c'est-à-dire les co-héritiers du Christ. Ensuite, nous verrons très brièvement un résumé de la doctrine orthodoxe de la grâce, et nous verrons que notre amour-propre nous empêche de voir que Dieu n'est pas mesquin envers nous. Et enfin, nous terminerons par la prière d'une âme reconnaissante. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Voici ce que nous dit l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Nous tous aussi, nous vivions autrefois comme les autres, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Mes très chers frères, la source de bien des maux dans la vie chrétienne vient de ce que nous ne savons pas reconnaître la nature de l'état duquel Dieu nous a tirés par sa grâce, et nous ne savons pas reconnaître qu'il était non seulement mauvais, non seulement déplorable, mais aussi inexorablement promis à la mort éternelle. Avant d'aller plus loin, il nous faut prendre conscience que si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons simplement changé de mœurs et changé de vie, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce que Dieu nous a retirés d'un état qui n'est pas simplement déplorable, qui n'est pas simplement mauvais, parce qu'après tout, on peut toujours trouver des états plus déplorables et plus mauvais que n'étaient les nôtres, en général. Mais c'est un état qui était inexorablement promis à la mort éternelle. C'est-à-dire que même si nous étions des braves gens, que nous étions des braves gens, que nous fussions les pires des bandits ou de gens immoraux, de gens plongés dans le péché, notre destinée était la même. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé, que l'on soit, si j'ose dire, juste, entre guillemets, ou que l'on soit pécheur, entre guillemets. Si l'on n'a pas notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne croit pas en lui, si l'on ne bénéficie pas de sa grâce, eh bien, quelque juste que nous soyons, et ou quelque pécheur que nous soyons, nous terminons toujours dans le même endroit. C'est cet endroit qui est fait, cet endroit, finalement, somme toute, artificiel, qui n'est pas fait pour l'homme, mais qui était fait pour l'ange déchu au début. Mais cet endroit, finalement, qui n'est pas voulu positivement par Dieu pour l'homme, mais dans lequel Dieu est obligé d'envoyer l'homme, qui ne correspond pas à sa destinée. Et cet endroit, bien sûr, c'est la damnation éternelle, c'est l'enfer. Nous négligeons donc de reconnaître que l'état duquel Dieu nous a tirés était un état de damnation, de prédamnation, en quelque sorte. nous vivions selon les convoitises de la chair, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc on ne peut aimer Dieu, mes très chers frères, si l'on réserve quelques complaisances envers, on se réserve quelques complaisances envers soi-même. Si il nous semble que nous n'étions pas si mal, si mauvais que ça, ou si mal que ça, d'une certaine manière, lorsque nous voyons que Dieu nous a tirés de ce que nous étions et nous a transportés dans un état qui n'était pas celui dans lequel nous étions, si nous pensons, si nous savons, si nous confessons que l'état duquel il nous a tirés était un état d'enfant de colère, alors nous sommes reconnaissants, nous pouvons être reconnaissants, sans limite. Si il nous a tirés d'un état que nous estimons finalement ne pas être aussi mauvais qu'il aurait pu être, nous serons reconnaissants, bien sûr, d'une façon générale, mais d'une façon particulière, nous ne serons pas reconnaissants. Il y aura des freins à notre reconnaissance, et quiconque freine la reconnaissance, sa reconnaissance envers Dieu, finira par l'assassiner totalement. Vous voyez, si un roi vous fait du bien, un roi vous comble de bien, mais qu'il vous semble que le roi vous a tiré d'une situation qui n'était pas si mauvaise que cela, vous allez être content et vous allez être reconnaissant envers le roi parce que, d'une certaine manière, il est indéniable que la situation maintenant est meilleure qu'avant, mais d'une certaine manière, plus vous allez y penser, plus vous allez vous dire que finalement le roi n'a pas fait tant de choses puisque vous étiez quand même déjà bien avant. Et d'une certaine manière, vous serez, surtout si c'est le roi spirituel, vous serez conduit à vous dire que d'une certaine manière, le roi s'est comporté en sans-gêne, qui vous a tiré d'une situation qui était somme toute plaisante, pour vous mettre dans une situation qui est sans doute objectivement meilleure, mais qui, sous un certain rapport, peut être déplaisante. Imaginez le pauvre qui a son petit réseau de mendicité, et qui va chaque jour tendre la main à la sortie, je ne sais pas, des églises, des hospices, etc. Il va prendre son repas dans un endroit, dans un monastère où on sert des repas aux pauvres. Il fait son petit circuit, il rentre à la maison, il a été nourri par la charité, par l'aumône. Il revient à sa maison, il fait ses comptes, il a juste de quoi acheter la nourriture, faire quelque chose. Bon, il y met un petit peu de côté aussi. Le roi vient. Et il lui déclare que par un décret incompréhensible mais très réel, il va faire de lui son héritier, son fils, et que désormais il ne peut plus vivre dans sa masure et mendier, mais qu'il va l'installer dans son palais. Et une fois qu'il l'a installé dans son palais, il va lui dire, eh bien maintenant que vous êtes mon fils adoptif, et que vous êtes mon héritier, vous allez apprendre l'étiquette de la cour, vous allez apprendre à régir des régions, vous allez apprendre à recevoir des ambassadeurs. Que va lui dire le pauvre? Il va lui dire, oui, c'est... Certes, je suis infiniment plus riche que je n'étais, mais d'une certaine manière, vous m'avez arraché une certaine tranquillité de vie. Vous m'avez, d'une certaine manière, très certaine, vous m'avez enrichi, mais en même temps, sauf votre respect, mais vous me cassez les pieds parce que, d'une certaine manière, je n'ai pas demandé à être votre fils, à diriger des royaumes, à mener des batailles. J'avais mon petit réseau de mendicité, j'étais bien. S'il en est ainsi pour nous, mes très chers frères, nous pourrions nous dire que Dieu nous a tirés d'un train-train quotidien mondain, somme toute assez honnête. Nous n'étions ni ceci ni cela, mais il se trouve que Dieu est venu avec sa grâce, nous a tirés de ce train-train, qui était finalement relativement honnête et relativement paisible, pour nous doter bien sûr de la vie éternelle, ce qui n'est pas rien, nous ne sommes pas fous au point de penser que la vie éternelle n'est rien, mais d'une certaine manière, en nous dotant de la vie éternelle, il nous a dit aussi « Imitez mon Fils, grâce auquel je vous donne la vie éternelle ». Et quand alors nous avons dit « Mais c'est merveilleux, je vais donc imiter le Fils de Dieu, c'est très bien ». En quoi consiste l'imitation de notre Seigneur? Porter sa croix tous les jours, renoncer à soi-même, renoncer à tout, ne plus aimer le monde, ne plus s'aimer soi-même, se mortifier, mortifier ses sens, mortifier son esprit, lutter contre la triple concupiscence. Nous nous apercevons que notre ancien maître, certes, nous méritait la damnation, mais en même temps, il était très doux avec nous. Il nous laissait paisiblement l'usage de la triple concupiscence, que par notre nature, nous savions tenir dans des bornes relativement restreintes et raisonnables, et nous nous apercevons que, d'une certaine manière, à notre aune, le bon Dieu nous a placés dans une situation qui est très pénible par rapport à la situation qui était la nôtre avant. Voilà pourquoi, mes très chers frères, nous devons, cette parabole, pour comprendre que nous devons considérer univoquement notre ancienne condition simplement du point de vue de la fin. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous dire « c'était une condition relativement honnête, certes, j'allais être damné, il faut se dire, j'étais dans une position où quoi que je puisse faire d'honnête, quoi que j'ai pu faire pour limiter ma concupiscence, pour limiter mes crimes, j'allais être damné. Et cette damnation, finalement, c'est la seule chose qui compte. Il faut se mettre, non pas du point de vue de celui qui jouit du monde et qui voit la damnation comme une sorte de menace très lointaine, mais comme celui qui est sur le point d'être jugé au jugement dernier, qui voit la damnation arriver, qui voit l'enfer s'ouvrir, et qui se dit, mais finalement, j'ai été du mauvais côté. De telle sorte que nous comprenions que la grâce que Dieu nous a faite nous a retirés d'un immense danger qui était inexorable et qui était nécessaire. Et c'était la damnation. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, comme dit saint Paul. Certes, du point de vue des sens, ce n'est pas toujours très folichon, parce qu'il se trouve que nous avons à souffrir, nous souffrons d'autant plus que notre triple concupiscence est exacerbée, mais il se trouve que du point de vue de la fin, c'est la vie éternelle. Donc vous voyez, mes très chers frères, on ne peut être reconnaissant envers Dieu que dans la mesure où on nourrit une sainte horreur pour tout ce que nous avons été autrefois, pour ce qui était notre état autrefois, et spécialement pour tout le bien et pour toutes les choses relativement légères et indifférentes que nous avons pu faire. Certes, nous avons tous de l'horreur pour ce que nous avons pu faire de crime, mais en même temps, un criminel qui est en prison, n'a-t-il pas, ou même un criminel, un mafieux qui est en plein dans les affaires, n'a-t-il pas secrètement, et par certains côtés, un certain dégoût, une certaine horreur pour ce qu'il fait? C'est un criminel mafieux qui fait assassiner des gens ou qui les tue lui-même. Est-ce que, alors, il démontre sa puissance, d'accord, mais au bout d'un certain temps, au fond de lui-même, n'est-il pas capable d'être lassé de ce qu'il fait? Bien sûr. Et ce n'est pas cela, mes très chers frères, ce n'est pas encore cela qui est la contrition que le chrétien a. La contrition que le chrétien doit avoir, c'est une horreur non seulement pour le mal que nous avons fait, mais aussi pour tout le bien relatif que nous avons fait et qui n'a pas été fait pour l'amour de Dieu. Sachant que dans l'enfer, les damnés, que Dieu nous garde, mais se désolent plus, spécialement les chrétiens damnés, les autres, disons, sont traités peut-être moins rigoureusement, mais les chrétiens damnés se désolent plus d'avoir fait du bien sans penser à Dieu que d'avoir fait du mal, parce qu'ils savent que les péchés, Dieu peut toujours les pardonner. Dieu pardonne les péchés. Il n'y a aucun péché, à strictement parler, qui ne puisse être pardonné par Dieu. La seule chose, il se trouve que souffrir pour l'éternité, pour avoir fait le bien sans l'avoir fait pour l'amour de Dieu, c'est la chose la plus stupide, la raison de souffrir qui est la plus stupide, et malheureusement, c'est la raison pour laquelle tout le monde se damne. Car si nous faisions les choses par la charité, eh bien nous ne nous damnerions pas, quand bien même nous n'aurions fait qu'une seule œuvre dans notre vie. Si c'était celle-là que nous devions faire, que nous l'avions fait par la charité, cela serait suffisant pour accomplir le dessein que Dieu avait sur nous. Donc voyez, mes très chers frères, il se trouve que par deux fois, dans l'Épître, il est dit « comme les autres ». Nous étions comme les autres. Nous vivions autrefois comme les autres, selon nos convoitises de notre chair. Comme les autres, nous étions enfants de colère. Bien sûr, il ne s'agit pas de se glorifier, de ne plus être comme les autres, puisque nous sommes maintenant justes, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais il s'agit de se dire que si nous devons être reconnaissants envers Dieu, c'est parce que Dieu nous a arrachés au destin commun de l'humanité, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu, qui est la mort éternelle. Et nous ne sommes plus comme les autres, sachant que les autres vivent pour eux-mêmes, et comme nous ne sommes plus pour les autres, nous vivons pour Dieu, désormais. Rien ne distingue en réalité un chrétien d'un païen, sinon la grâce reçue de Dieu, la grâce efficace reçue par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas les grâces générales que Dieu répand sur tout le monde, la grâce efficace de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne distingue donc un chrétien d'un païen, sinon la grâce reçue. La reconnaissance que nous devons avoir, mes très chers frères, est donc la marque distinctive du chrétien. Si rien ne distingue un chrétien d'un païen que la grâce qu'il a reçue et que l'autre n'a pas reçue, qu'est-ce qui doit distinguer par ailleurs le chrétien? Le fait d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude. J'ai reçu la grâce que je ne pouvais pas mériter, désormais je vis dans la gratitude, c'est-à-dire je ne reçois pas la grâce de Dieu en vain, et je mets à profit cette grâce, non seulement pour mériter d'autres grâces, mais encore pour montrer à Dieu combien je l'aime, en retour de cet amour gratuit qu'il a déployé envers moi, en me donnant sa grâce, sachant que sa grâce, La grâce première, nous la recevons toujours au moment où nous n'y pensons pas, au moment où l'homme païen, le mécréant, n'y pense pas, et au moment où nous la méritons le moins, d'une certaine manière. La marque distinctive du chrétien, c'est donc la reconnaissance, la gratitude. Or, mes très chers frères, la grâce ne se contente pas de nous retirer des désordres du monde. Elle témoigne de l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est un amour prévenant qui a surmonté la justice, sa propre justice, par le sacrifice du Fils au Père. Et c'est pour cela que saint Paul parle des richesses infinies de sa grâce. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa grâce? Bien sûr, en nous retirant de la voie de perdition dans laquelle nous étions, mais aussi, et ça, seuls ceux qui sont dans la gratitude peuvent s'en rendre compte, peuvent apprécier ce qui est dit, il nous a ressuscités ensemble, dit saint Paul, c'est-à-dire ensemble avec le Christ, il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Con resuscitavit, considere fecit in celestibus. Con vivificavit in nos in Christo. Il nous a rendu la vie, il nous a donné et rendu la vie dans son Fils unique, dans lequel il a mis toutes ses complaisances. Seul celui qui est dans la gratitude, qui manifeste la gratitude, peut comprendre ce que signifie d'avoir été vivifié avec le Christ, d'avoir été ressuscité avec le Christ et d'avoir été d'avoir été assis avec le Christ dans les lieux célestes. Si nous pensons que ce que nous étions autrefois n'était pas si mal, nous ne pouvons pas apprécier le don de Dieu. Si nous sommes dans la situation de quelqu'un qui, si j'ose dire, pour prendre un exemple un peu vulgaire, quelqu'un qui vient juste de traverser la voie, et une seconde après qu'il ait traversé la voie, il y a un train qui passe à toute allure derrière lui, sur les rails, si nous sommes dans cette situation, alors nous pourrons être pleins de gratitude envers Dieu. Mais s'il se trouve que, d'une certaine manière, nous avons traversé la voie et qu'une heure après, le train passe, nous n'aurons pas beaucoup de gratitude. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Celui qui aime beaucoup, celui qui a beaucoup péché, aime beaucoup aussi. Malheur à celui, d'une certaine manière, qui estime que ses péchés c'est des péchés que Dieu lui a pardonnés, n'exigent pas de lui une très grande reconnaissance. Celui-là ne se rend pas compte du danger auquel que Dieu lui a fait échapper. Maintenant, si il se trouve qu'il découvre que par la grâce de Dieu, il est encore en vie, ou plutôt qu'il a été restitué à la vie, alors il se rend compte que ce n'est pas simplement une vie banale comme les autres hommes n'ont pas mais pourraient avoir. Il a une vie surnaturelle, il a une vie qui n'est autre que la vie même du Christ, duquel il a été fait participant. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous ne pouvons pas comprendre le prix de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ notre Sauveur. La grâce chrétienne est une participation totale, nous disent les commentateurs, c'est un lieu commun de la religion, au mystère de Jésus-Christ. C'est une appropriation de sa mort, une appropriation, une application de sa résurrection, de son ascension, qui s'opère en nous, qui opère en nous la mort au péché et à ses convoitises, qui opère en nous une vie nouvelle, ressuscitée, une séparation de la terre avec le monde et un désir du ciel. Ce sont là les choses que produisent en nous, les effets que produisent en nous la grâce. La grâce ne produit pas cet effet si nous ne nous rendons pas compte, si nous ne confessons pas que nous avons, par la grâce de Dieu, échappé à la mort et que nous sommes passés de la mort inexorable à la vie. Tout ceci reste lettre morte sans la reconnaissance. Et donc, la reconnaissance est l'amorce de l'amour de Dieu. Parfois, nous nous disons comment faire pour aimer Dieu, pour aimer plus Dieu. Eh bien, il faut avoir un prétexte pour aimer Dieu. Et le grand prétexte pour aimer Dieu, qui est un bon prétexte, qui est un prétexte véritable, c'est qu'il nous a échappé, il nous a fait échapper à la mort, à une mort que nous ne pouvions pas ne pas mériter, puisque nous étions sans lui, étrangers aux alliances, sans Dieu et sans espérance dans le monde, comme dit saint Paul dans un autre endroit, qui dresse le tableau terrible de celui qui est étranger à la grâce de Dieu. Donc voyez, mes très chers frères, apprécier le prix de la grâce, il faut reconnaître la situation de laquelle Dieu nous a tirés, qui est une situation de mort inexorable, et il nous a translatés dans le royaume de son Fils, qui est le royaume de la lumière et le royaume de la vie. Saint Paul dit ensuite, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nul ne va au Père que par notre Seigneur Jésus-Christ, mes très chers frères. Tous ceux qui viennent à lui sont accueillis. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit notre Seigneur. Il y a donc ici quelque chose que nous ne cesserons jamais de répéter tant que Dieu nous prêtera vie, c'est que il se trouve que là, le mystère de l'amour de Dieu, l'amour prévenant de Dieu, se manifeste par le fait que l'homme, à un moment, se met en branle et se dirige vers Dieu. Il gisait dans le bourbier où il était, et tout d'un coup, il trouve quelque part en lui-même la force d'en sortir et la force d'aller vers Dieu. Et en lui-même, s'il a trouvé cette force, ce n'est pas qu'elle était là en lui-même, gisant en lui-même, c'est qu'elle lui a été donnée, cette force, alors qu'il ne l'avait pas auparavant. « Nul ne va au Père que par moi, dit notre Seigneur. Tous ceux qui viennent à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il y a donc dans ce mystère, le mystère de la réciprocité de l'aimant et du fer. Si vous prenez un aimant et que vous le mettez solidement attaché, fixé quelque part, et que vous mettez suffisamment près, disons, un morceau de fer, c'est le morceau de fer qui va se déplacer vers l'aimant. D'une certaine manière, si on prend l'image d'un aimant fixe, le fer, lorsqu'il est approché suffisamment près de l'aimant, se déplace tout seul vers l'aimant. Ce n'est pas l'aimant qui va chercher le fer et ensuite qui retourne à sa place, puisque l'aimant est, disons, immobile ici. Vous avez le fer qui se déplace, mais il se déplace simplement parce que l'aimant l'a attiré. C'est par la vertu de l'aimant que le fer se déplace, et ce n'est pas l'aimant qui se déplace, mais c'est le fer qui se déplace. C'est ainsi que Saint Bernard nous explique et résume d'une façon tout à fait magnifique la doctrine de la grâce. Il nous la résume, Saint Bernard, donc grand disciple de Saint Augustin, il la résume de cette manière. La grâce fait tout. La volonté fait aussi tout. La volonté de l'homme. L'une et l'autre agissant par une opération invisible. Mais la grâce fait tout dans la volonté, et la volonté fait tout par la grâce. C'est une formule qui résume cette doctrine si difficile, si délicate, dans laquelle on peut tomber, dans laquelle beaucoup sont tombés malheureusement, mais dans laquelle on peut tomber, mais il se trouve que c'est une doctrine absolument nécessaire, fondamentale. Mes très chers frères, si nous n'avons pas la doctrine de notre Saint-Père Augustin sur la grâce, nous allons tomber dans des erreurs, les erreurs des pélagiens, des semi-pélagiens, des pélagiens modérés, des demi-pélagiens, des néo-pélagiens, des molinistes, et il se trouve que d'une manière ou d'une autre, le résultat en sera que notre reconnaissance envers Dieu en sera diminuée. Pélage avait une grande vie de prière, il priait beaucoup, il priait pour remercier Dieu, il priait pour glorifier Dieu, mais il enseignait à ses disciples à ne pas prier pour demander l'aide de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il disait « Dieu vous a donné toute l'aide dont vous avez besoin en vous donnant la grâce générale, de telle sorte qu'il faut maintenant, de votre propre fond, correspondre à cette grâce, de telle sorte que vous la fassiez prospérer, que vous la fassiez, que vous la mettiez à profit, puisque c'est une grâce que tous reçoivent indistinctement, mais seuls ceux qui ont une volonté ferme, et une volonté forte, et une volonté aguerrie, peuvent en faire usage. » Donc vous voyez, bien sûr, on pourrait dire qu'à premier abord, il y a une sollicitation de la volonté plus grande que dans l'orthodoxie. Mais il se trouve néanmoins que cette volonté, c'est la volonté propre de l'homme, qui, lorsqu'il fait bon usage de la grâce, a tout lieu de se glorifier aux dépens de son prochain qui ne fait pas bon usage de la grâce, en se disant « mon prochain est un débile, mon prochain est un faible, mon prochain est un mou, et moi, il se trouve que, non pas par la grâce de Dieu, mais grâce à la nature, grâce à mes parents, grâce à mon éducation, grâce à ma volonté, je fais bon usage de la grâce. » c'est quelque chose qui peut nous sembler être le béaba de la vie chrétienne, mes très chers frères, sachez que Saint Augustin refusait d'appeler chrétiens les pélagiens. Pourquoi ? Pourtant, les pélagiens n'ont jamais fait de schisme. Ce ne sont pas comme les Ariens qui niaient l'incarnation, enfin qui niaient la divinité du Verbe, ce n'est pas comme les Docètes qui niaient la réalité de l'humanité du Christ, ce n'est pas comme les Nestoriens qui niaient, enfin qui relativisaient son humanité. Et pourtant, donc, les pélagiens étaient orthodoxes sur tous ces points, mais Saint Augustin disait, écoutez bien, la doctrine de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est au cœur même de la religion chrétienne. enlever la grâce de notre Seigneur, le christianisme ne devient jamais qu'une religion semblable aux autres ou alors une sorte de déisme. Enlever la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus de christianisme. Or, justement, les pélagiens réduisaient la grâce de notre Seigneur à n'être plus qu'une sorte de volonté de bienveillance générale de Dieu, même pas de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas très important, mais de Dieu en général, de Dieu le Créateur, envers ses créatures, s'attendant à ce que ces créatures fassent un effort vers lui, tirant cet effort de leur propre fond, venant de cette nature, touchée par le péché originel, ça c'est la deuxième version de Pélage, mais si peu. Saint Augustin refusait donc d'appeler chrétiens les pélagiens, alors que de tous les hérétiques, ce sont peut-être ceux qui sont le plus conformes à l'orthodoxie. Les pélagiens n'avaient qu'un seul tort, c'est de croire que c'est l'homme qui va vers Dieu en faisant bon usage de la grâce. Saint Augustin disait, si vous dites cela, vous n'êtes pas chrétien. Parce que si vous allez vers Dieu, et si vous faites bon usage de la grâce, c'est parce que Dieu vous donne une grâce qui vous permet de faire bon usage de cette grâce. Si vous allez vers Dieu, c'est que Dieu vous attire. Vous allez dire, est-ce que ça ne réduit pas la volonté de l'homme, est-ce que la liberté de l'homme, est-ce que ça n'a pas un aspect décourageant pour l'exercice de la vie chrétienne? Eh bien, mes très chers frères, écoutons à nouveau ce que dit Saint Bernard. La grâce fait tout. La volonté fait aussi tout. L'aimant attire le faire, et c'est le petit rouleau de fer, le cylindre de fer, qui roule tout d'un coup, tout seul, mu, en quelque sorte par une force qui le dépasse, et en même temps c'est lui-même qui fait le mouvement, il est mu par ce mouvement, et c'est lui qui roule jusqu'à l'aimant. La grâce fait tout, la volonté fait aussi tout, l'une et l'autre agissant par une opération invisible. On ne voit pas la grâce agir. Et la volonté qui agit, eh bien, fonctionne selon les canons de la volonté, c'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme une volonté, et cette volonté est faite pour appréhender Dieu et pour se diriger vers le bien, et il se trouve qu'il n'y a rien de plus naturel que lorsque l'homme aime Dieu et se dirige vers le bien. Mais c'est par une motion secrète de la grâce. De telle sorte que la grâce fait tout dans la volonté, mais la volonté reste la volonté, et la volonté fait tout par la grâce. Encore une fois, je prends cet exemple, qui est un exemple un peu irritant, mais un exemple qui est quand même qui fait comprendre. Si le moteur n'est pas un moteur qui est capable de fonctionner normalement, l'essence qu'on met dedans ne peut pas le faire fonctionner. Mais si le moteur fonctionne, c'est parce que l'essence y est. Ce n'est pas l'essence qui, à strictement parler, fait monter et descendre les pistons. C'est parce que le moteur, absorbant l'essence qui lui est donnée, la brûle, la transforme en énergie et fait monter les pistons, fait bouger l'arbre, etc., et met en mouvement la voiture. Vous voyez, si j'ose dire, évidemment, c'est un exemple tiré de la modernité qui est un peu irritant, mais vous voyez, il ne faut pas s'imaginer parce que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu va faire les choses à notre place. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que parce que nous faisons les choses, et nous devons faire les choses, que c'est nous qui les faisons par une force que nous tirons de notre propre fond. De même que le fer se dirige vers l'aimant, de même, notre volonté se dirige vers Dieu par une attraction secrète, une opération invisible de la grâce, certes, mais c'est en même temps la volonté qui fait tout, de telle sorte qu'on ne peut pas dire que Dieu fait 50% la grâce et l'homme 50%, ou que l'homme agit comme si tout dépendait de lui alors qu'en réalité tout dépend de Dieu. L'homme agit selon ce qu'il doit agir, il doit répondre, il doit obéir, il doit faire ce que Dieu lui dit de faire. Et il se trouve que si il se trouve que l'homme, un homme le fait, c'est parce qu'il a reçu la grâce. Alors vous allez dire, comment savoir que j'ai reçu la grâce? Je me sens si faible. Eh bien, mes très chers frères, disons-nous simplement que si les paroles que vous entendez ont ne serait-ce qu'un vague sens pour vous, c'est que vous avez déjà suffisamment de grâce de Dieu pour être convaincu que Dieu vous aime, que Dieu est votre Père, et que cet aimant surnaturel vous attire et vous meut, de telle sorte qu'il vous faut continuer à faire tous les efforts que vous avez déjà fait jusqu'à présent, afin de continuer, parce que très certainement, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce que nous enseignent les docteurs de notre famille, et qui sont les docteurs de l'Église. L'ingratitude vient de la déception de n'avoir pas fait de Dieu notre débiteur. C'est la plus noire et la plus hideuse des rébellions, puisque en réalité, Dieu nous traite, pour l'amour de son Fils, comme s'il nous devait la récompense, une récompense personnelle pour notre obéissance. Donc, vous voyez, lorsque le pélagien écoute la doctrine orthodoxe, il dit, mais finalement, je suis déçu, parce que j'aurais voulu, enfin, il ne le dit jamais, mais enfin, il le pense très fort, j'aurais voulu finalement que Dieu me doive quelque chose. Mais à strictement parler, regardons l'effort que le pélagien est capable de faire. Il va faire un effort humain, il va faire un effort tiré de son propre fond. Il va faire un effort, mettons qu'il soit un effort, disons, qui vaut, je ne sais pas, 10 points sur l'échelle des efforts. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va le faire? Dieu est débiteur de lui, c'est-à-dire il lui doit un salaire de 10 points. Maintenant, celui qui fait un effort de 100 points, Dieu lui doit un salaire de 100 points. Tandis que lorsque nous reconnaissons par gratitude que tous les mouvements que nous faisons vers Dieu, c'est Dieu lui-même qui les agit en nous, par la motion de sa grâce, nous comprenons aussi que Dieu nous récompensera, non pas en fonction tellement des efforts que nous avons faits, mais de celui qui a fait les efforts en nous, et de celui par qui nous avons fait ces efforts. Donc le pélagien recevra le salaire de son effort, qui est un effort humain, donc un petit salaire humain. Tandis que nous, qui ne pouvons rien sans le Christ, lorsque nous faisons un effort, et que nous le faisons de tout notre corps, de toutes nos forces, et que nous souffrons pour le faire, parce que nous nous arrachons en quelque sorte à nous-mêmes, comme celui qui transporte un poids très lourd, s'arrache à sa propre faiblesse pour réaliser cet exploit, lorsque nous le faisons, Dieu ne récompense pas l'effort humain que nous avons fait, parce que l'effort humain que nous avons fait est équivalent à zéro. Puisque, à strictement parler, si nous avions dû faire cet effort par nous-mêmes, nous n'aurions pas pu le faire, ou nous n'aurions plutôt pas voulu le faire. Maintenant, si nous l'avons fait, puisque nous l'avons fait, c'est ça le propre de la vie chrétienne, il se trouve que nous l'avons fait par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Donc Dieu nous récompense de la vie éternelle, il nous récompense infiniment au-delà de ce que valent, disons, les efforts concrets que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'il récompense en lui-même ses propres dons. Et ça, c'est une formule fondamentale de notre Père. Dieu récompense en nous-mêmes ses propres dons. Tout ce que vous accomplissez, Seigneur, dit le psaume, c'est vous-même qui l'accomplissez. Tout ce que nous faisons, c'est vous-même qui l'accomplissez en nous et pour nous. Donc l'homme doit faire tous les efforts qu'il doit faire parce que Dieu ne fait pas les choses à notre place, mais Dieu est la force sans laquelle nous ne voudrions pas faire les efforts. Si nous demandons alors quand est-ce que nous devons faire des efforts et quand est-ce que nous faisons des efforts par Dieu, je vous dirai, mes très chers frères, que chaque fois que nous obéissons à cette parole de Salomon, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le », il se trouve que chaque fois que nous le faisons, il se trouve que nous méritons un trésor de grâce infini. Pourquoi? Parce que obéissant à cette parole, c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Mais c'est nous qui agissons. Ce n'est pas que nous agissons indépendamment de Dieu, ou contre Dieu, ou parallèlement à Dieu, ou avec Dieu. Nous agissons sous la motion de Dieu. Souvenons-nous, mes très chers frères, nous ne ferions pas les efforts que nous faisons, petits ou grands, si nous n'avions pas la grâce pour vouloir faire ces efforts. Alors vous allez dire, mais il me semble des fois que je n'ai même pas la volonté de faire les efforts. Nous avons la raison qui nous dit que c'est le moment de faire cet effort. Et cela est suffisant pour nous éclairer sur notre devoir et nous faire faire l'effort que nous devons faire, sachant qu'en le faisant, c'est Dieu qui agit en nous. Vous allez dire, mais bien souvent, je cède à la paresse et je ne fais pas ce que je devrais faire. Eh bien, il se trouve que le fait même que vous savez que c'est un péché montre que vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas dans cette indifférence, dans cette torpeur mortelle qui est celle des autres, c'est-à-dire des enfants de colère. Alors vous allez dire, mais du coup, je pêche. Vous péchez, mais vous pouvez aussi arrêter de pécher, dans la mesure où vous demandez très humblement à Dieu la force dont vous avez besoin, et surtout la force de vouloir utiliser la force que Dieu vous donne. Il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Certains disent que saint Augustin a dit, ou que ses disciples ont enseigné, qu'on ne pouvait pas résister à la grâce de Dieu. Malheureusement, tout le monde, personne ne l'a jamais enseigné, puisque tout le monde sait qu'on peut résister à la grâce de Dieu. La seule chose, ce n'est pas une bonne chose, puisque ça s'appelle un péché. Mystérieusement, nous pouvons résister à la grâce de Dieu, et c'est un plus grand mystère, que c'est une chose plus difficile en théologie d'expliquer comment nous sommes capables de résister à la grâce de Dieu que d'expliquer le mystère de la prédestination et de la prémotion physique de Dieu, qui sont des choses extrêmement complexes que les théologiens très qualifiés peuvent traiter sans faire de faux pas. Il est plus difficile d'expliquer comment nous pouvons résister à Dieu, et je dirais même, pas simplement du point de vue théologique, mais du point de vue simplement de la reconnaissance. Comment peut-on refuser d'obéir à un Dieu qui nous a tant aimés? Comment peut-on refuser d'obéir à un Dieu qui, ayant toute latitude et toute justice pour nous condamner selon sa justice, a surmonté sa propre colère, a déversé sa colère sur son Fils, de telle sorte que son Fils a souffert les peines de l'enfer pour tous les élus, et il nous a mérité non seulement d'être réconciliés avec Dieu, mais d'être ressuscité, vivifié avec lui, en lui, ressuscité avec lui, et de devenir en lui co-héritier avec lui de la gloire éternelle. Comment peut-on résister à un Dieu qui nous a tant aimés? C'est un mystère, peut-être un mystère d'iniquité, mais très chers frères, sachons être reconnaissants pour éviter cette lamentable possibilité de la vie humaine, malheureusement, de l'homme, qui est de résister à la grâce de Dieu. Si Dieu nous devait la récompense, nous l'avons dit, si Dieu nous devait la récompense des efforts que nous tirons de notre propre fond, il ne nous donnerait finalement pas grand-chose. Mais il nous donne la vie éternelle, il nous donne la béatitude éternelle, il se donne lui-même à nous comme récompense. Comment ne pas être reconnaissant, mes très chers frères? Nous sommes son ouvrage, dit saint Paul, ayant été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, ses œuvres, afin que nous les pratiquions. Nous ne nous appartenons plus, mes très chers frères, si jamais nous avons été autre chose que la proie du démon. Autrefois, nous ne nous appartenions pas non plus. Mais le démon nous laissait jouir de notre propre déchéance, de telle sorte que nous avions l'impression de faire notre propre volonté. Or, saint Paul nous révèle où en est la liberté et la volonté de l'homme sans Dieu. Autrefois, on vous menait comme des bêtes muettes aux idoles, dit saint Paul. On vous menait à l'abattoir comme des bêtes muettes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, ou si peu, ou qui ne peuvent rien faire. Tandis que, lorsque la grâce nous a été donnée, notre volonté a été restituée, la volonté a été restituée à elle-même, et désormais nous pouvons vouloir ce qui est notre bien, et ce qui est le bien suprême, c'est-à-dire l'honneur de Dieu. Nous ne nous appartenons plus parce que nous avons été recréés à l'image de Dieu. Nous l'étions bien sûr, mais nous avons été restitués à cette image. La volonté trouve sa motivation dans cet esclavage volontaire qui nous arrache à notre torpeur en nous faisant comprendre que, esclaves de Dieu, mes très chers frères, nous sommes récompensés par lui comme des fils. Le pélagien, finalement, s'il devait être récompensé, serait récompensé à la hauteur de ses efforts, qui sont finalement peu de choses en réalité, peu de choses. Mais nous qui sommes, par la grâce de Dieu, faits esclaves de Dieu, alors que nous étions esclaves du démon, Dieu nous traite comme des fils, parce que nous sommes véritablement ses fils, et Dieu nous récompense comme ses fils. Alors quelle est la prière que nous devons faire monter à Dieu du fond de nos cœurs, mes très chers frères, spécialement en cette fête de notre Père Saint-Augustin? Écoutez cette prière que j'ai trouvée dans un bon livre. Vivez donc, Seigneur, et opérez en nous, Seigneur Jésus, afin que nous subsistions, que nous vivions et que nous opérions en vous. Créez, mon Dieu, un cœur nouveau en moi. C'est une prière très simple, c'est une prière que nous devons prier sans cesse, mes très chers frères. L'exemple de notre Père Saint-Augustin témoigne qu'il n'y a pas de situation si désespérée du point de vue charnel, du point de vue mondain, du point de vue de l'orgueil, qui ne puisse être vaincu par la grâce de Dieu. Ô Seigneur, par l'intercession de saint Augustin, votre serviteur et notre Père, donnez-nous votre grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.